Chapitre 9. Rapprochement. Votre estimation des fonds nécessaires à ce voyage s'est révélée très en dessous de la réalité. En outre, jamais je n'aurais entrepris cette enquête si j'avais été prévenu du temps épouvantable, de la cuisine détestable et du caractère encore plus exécrable des gens qu'on trouve sur ces îles. J'escompte une prime exceptionnelle à mon retour. J'ai enfin réussi à visiter votre île maudite. Pour payer le trajet jusqu'à ce caillou glacé, j'ai dû verser jusqu'au dernier sou de la somme insuffisante que vous m'aviez allouée et travailler une journée à arranger de la morue salée pour une harengère dotée d'un tempérament abominable. L'esquif qu'on m'a fourni, d'un modèle inconnu de moi, impossible à gouverner, prenait l'eau et ne disposait même pas de rame digne de ce nom. C'est un miracle que je sois parvenu à franchir les eaux qui me séparaient d'Aslevial. À mon arrivée, j'ai débarqué sur une grève noire et rocheuse. Le glacier qui couvrait autrefois l'île tout entière jusqu'à la ligne de marée paraît avoir reculé. On reconnaît encore un appontement abandonné et des piliers, mais tous les éléments récupérables et aisément transportables ont disparu. De la grève, on passe à un désert de roches noires. Dans de petites poches de terre pousse de la mousse, une herbe rude et rien de plus. Peut-être des bâtiments rudimentaires se sont-ils dressés là jadis, mais comme dans le cas de l'appontement, on a emporté tout ce qui pouvait servir. Des traces évidentes indiquent qu'on a pratiqué l'extraction de la pierre dans le passé, mais, d'après l'aspect actuel de la mine, cette activité a cessé depuis au moins 10 ans. D'énormes blocs ont été taillés et alignés comme pour former une muraille immense, mais une muraille d'une seule rangée d'épaisseur. Apparemment, on a commencé à travailler cette masse au ciseau pour lui donner l'aspect d'une statue horizontale, mais on a abandonné l'ouvrage avant d'en avoir achevé le quart. Il m'a été impossible de déterminer ce que cette sculpture devait représenter. J'ai parcouru toute la partie accessible de la grève et me suis aventuré brièvement sur le glacier lui-même jusqu'à ce que la nuit m'y surprenne. Je n'ai vu aucun dragon, ni libre, ni prisonnier de la glace, ni rien qui pût évoquer une créature vivante. J'ai regagné la plage dans la pénombre du crépuscule et passé une nuit fort froide, abrité derrière les blocs de pierre, n'ayant pu trouver le plus petit morceau de bois pour allumer un feu. J'ai mal dormi, assailli par d'épouvantables cauchemars où je faisais partie d'une foule d'habitants des six duchés enfermés dans une affreuse prison de pierre. Et l'aube venue, c'est avec soulagement que j'ai quitté l'île. Si d'autres y débarquent après moi, qu'ils prennent soin de se munir de tout ce qui leur est nécessaire, car assurément, cette terre ne dispense aucun don. Rapport à Humbre Tombe Étoile. Anonyme. Recréer mes cicatrices avait retardé le recouvrement des forces. Les 3 jours suivants, je me retirai en moi-même, et me concentrant exclusivement sur le rétablissement de ma santé, je ne fis que dormir, manger et dormir encore. Je restai dans la salle de travail d'Humbre, qui se chargea d'apporter mes repas. Il ne suivait aucun horaire précis, mais apportait chaque fois de copieuses portions. Cette irrégularité ne me dérangeait guère, car, grâce à la cheminée, je pouvais me préparer de la tisane et réchauffer ma soupe à toute heure. Aucune fenêtre ne perçait les murs de la pièce, et je perdis rapidement toute notion du temps. Je repris les habitudes de loup auxquelles j'avais obéi de si longues années. À l'aube et au crépuscule, alors que j'avais l'esprit au plus vif, j'étudiais les manuscrits, et je passais le reste de la journée à manger, à somnoler au coin du feu ou à dormir dans le lit. La lecture n'occupait pas seule mes heures de veille. Je m'amusais à dissimuler des bouts de viande quand Girofle était absent, puis à son retour, à le regarder les chercher, et les dénicher par toute la salle. Je réalisais de petits projets au gré de ma fantaisie. Je fabriquais ainsi, pour jouer aux cailloux, un tablier, à l'aide d'une plaque de bois sur laquelle je traçais des lignes avec une pointe rougie au feu. Puis je sculptais des pions, dans une défense de narval, dont Humbre m'avait donné la permission de me servir. J'en peignis un quart en rouge, un autre quart en noir, et laissai aux autres leur couleur naturelle. Mais c'est en vain que j'attendais de jouer une partie avec Humbre. Il évoquait rarement ses études de l'art et, Quand il me rendait visite, il paraissait toujours pressé. Sans doute cela valait-il mieux. Je dormais plus profondément quand je restais seul. Il se montrait aussi très réservé quant aux autres nouvelles du château, et le peu que je parvenais à lui arracher m'emplissait d'inquiétude. La reine continuait à négocier avec les marchands de Terrilleville, mais elle avait gracieusement autorisé les ducs de Orphon et de Bauges à peser à leur gré sur Calcède le long de leurs frontières. Il ne s'agissait pas d'une déclaration de guerre officielle, mais les opérations de harcèlement et de pillage qui se déroulaient sur la limite entre Calcède et les six duchés se multiplieraient avec la bénédiction tacite de la souveraine. Certes, tout cela n'était guère nouveau. Les esclaves calcédiens savaient depuis des générations que la liberté les attendait dans notre royaume, et quand ils parvenaient à s'échapper, ils se retournaient souvent contre leurs anciens maîtres, lançant des razzias sur les troupeaux dont ils s'occupaient naguère. Malgré tout, le commerce entre Calcède et nos duchés limitrophes demeurait actif et prospère. Mais si les six duchés prenaient clairement le parti de Terrilleville, cet état de fait risquait de se voir anéanti. La guerre qui opposait la cité marchande à Calcède avait considérablement gêné le flux de renseignements que ces espions, dans cette région, envoyaient à Imbre. Ils devaient se contenter de rapports de seconde, voire de troisième main, évidemment chargés de contradictions par trop d'intermédiaires, et nous tenions en grand scepticisme les faits qui nous parvenaient. Oui, les marchands de Terrilleville possédaient un élevage de dragons en amont de la pluie. On avait vu un ou peut-être deux dragons en vol. On les décrivait parfois comme bleus, parfois comme argent, ou encore comme bleus et argent. Les Terrilleviliens leur procuraient leur provende, et en retour, les bêtes fabuleuses protégeaient leur port. Toutefois, elles refusaient de s'éloigner de la côte, ce qui expliquait que la flotte calcédienne demeura en mesure de menacer les routes commerciales maritimes de la ville. Des êtres hybrides, mi-dragon mi-homme, assuraient la gestion de l'élevage, situé au beau milieu d'une cité magnifique, aux murs ornés de merveilleuses pierres précieuses qui brillaient la nuit. Les humains qui y résidaient habitaient d'altiers châteaux de bois, au sommet d'arbres immenses. De tels contes nous laissaient plus frustrés qu'éclairés. « Croyez-vous qu'ils nous aient menti à propos de leurs dragons ?» demandai-je à Imbre.
« Non, ils nous ont dit sans doute la vérité, » répondit-il sèchement. « C'est toute l'utilité des espions. Ils nous rapportent toutes les versions d'une même histoire, afin que, de leur total, nous puissions extraire notre propre vérité. Mais ces amuse-gueules ne font en aucun cas un repas et nous laissent sur notre faim. Que pouvons-nous déduire de certaines de ces rumeurs ? Seulement qu'on a bel et bien vu un dragon, et qu'il se trame d'étranges événements sur les rives de la pluie. »
Il refusa de s'étendre davantage sur le sujet, mais je le soupçonnais d'en savoir bien plus long qu'il ne l'avouait, et d'avoir d'autres fers au feu dont il ne me parlait pas. Mon temps continua de s'écouler entre sommeil, études et repos. Un jour, alors que je fouillais la bibliothèque d'Imbre à la recherche d'un manuscrit sur l'histoire de Jamaïlia, je tombais sur les plumes que j'avais ramassées sur la plage au trésor. Je restai un long moment immobile à les contempler dans la pénombre, puis je les rapportai à la table de travail où je les examinais sous un meilleur éclairage. Leur simple contact me troublait. Il réveillait le souvenir des heures que j'avais passées sur cette grève perdue et soulevait des centaines de questions. Elles étaient cinq, à peu près de la taille des plumes courbes de la queue d'un cochelet, et sculptées avec un tel luxe de détails qu'on en distinguait nettement chaque barbe. Elle paraissait sculptée dans un bois de teinte grise, mais pesait curieusement lourd dans mes mains. Je tentais de les égratigner à l'aide de divers ustensiles métalliques. Seul le plus tranchant y laissa une marque à peine perceptible. Si ce matériau était bien du bois, il avait quasiment la dureté du métal. Leur gravure jouait étrangement avec la lumière. Grise et terne à première vue, elle paraissait ruisseler de couleurs quand je les regardais du coin de l'œil. Elle ne dégageait aucune odeur particulière, et quand je posais le bout de ma langue sur l'une d'elles, je sentis tout d'abord un goût vaguement salé, comme celui des embruns, suivi d'une légère âcreté. Ce fut tout. Ayant soumis les objets à l'épreuve de tous mes sens, je me résignai à leur mystère. J'avais toutefois le sentiment qu'ils devaient se fixer sur le coq couronné que le fou m'avait montré. Encore une fois, je m'interrogeais sur la provenance de cette étrange parure. Quand il me l'avait présentée, elle était empaquetée dans un tissu si extraordinaire qu'il ne pouvait l'avoir trouvée qu'à Terrilville. Pourtant, l'ornement de bois paraissait trop humble pour avoir été fabriqué dans cette cité de prodiges et de magie. Lorsque le fou l'avait déballé, je l'avais reconnu aussitôt. Je l'avais déjà vu en rêve. Dans mon souvenir, il était peint de couleurs vives et des plumes éclatantes y étaient plantées qui ondulaient au gré du vent. Il saignait le front d'une femme aussi pâle que le fou alors, et les badauds d'une ville des anciens avaient interrompu leurs festivités pour s'esbaudir de ses propos comiques. À l'époque, j'avais vu en elle une sorte de bouffon. Mais je me demande aujourd'hui si la scène n'avait pas une signification plus subtile qui m'avait échappé. Je contemplais les plumes disposées en éventail devant moi, et un malaise diffus et glaçant me saisit soudain. Elle nous reliait, le fou et moi, non seulement l'un à l'autre, mais aussi à une autre existence. En hâte, je les roulais dans un tissu et les cachais sous mon oreiller. Pourquoi m'était-elle échue? Je l'ignorais et je ne tenais pas à en discuter avec Imbre pour le présent. J'avais le pressentiment que le fou connaissait peut-être les réponses à mes questions, mais j'éprouvais une curieuse répugnance à lui apporter les plumes, à cause, certes, de l'abîme que notre dispute avait ouvert entre nous, mais surtout du fait que je les détenais depuis longtemps sans lui en avoir jamais parlé. Attendre davantage n'arrangerait rien, j'en avais conscience, mais je me sentais encore trop faible pour les lui montrer, et ce n'était pas seulement un mauvais prétexte. Elles restèrent donc sous mon oreiller pendant que je dormais. Dans les profondeurs de ma troisième nuit dans la salle d'Imbre, Horty investit mon sommeil. Elle se présenta sous l'apparence d'une femme en sanglots. Dans mon rêve, une statue se dressait au milieu de sa rivière de larmes. Ses pleurs lui faisaient une robe argentée, et sa peine la nimbait comme une brume. Je demeurai un moment immobile à la regarder. Chaque goutte d'argent roulait sur ses joues et formait en tombant un fil arachnéen qui se fondait à son vêtement, avant de se perdre dans le courant à ses pieds. « Qu'y a-t-il ? » demandai-je enfin à l'apparition. Elle ne répondit pas et continua de pleurer. Je m'approchai d'elle et posai finalement la main sur son épaule en m'attendant à sentir sous mes doigts le froid de la pierre. Mais la femme se tourna vers moi, les yeux gris comme le brouillard, entièrement composés de larmes. « Je vous en prie, fis-je, dites-moi pourquoi ces larmes. » Et elle devint tout à coup Horty. Elle posa son front contre ma poitrine et sanglota de plus belle. Quand je la rencontrais dans mes songes jusque-là, j'avais toujours l'impression qu'elle me cherchait. Cette fois, c'est moi qui étais allé à elle, attiré par son chagrin, en un lieu où elle seule avait habituellement accès. J'eus le sentiment que mon apparition la surprenait, inattendue, mais non malvenue. Qu'y a-t-il ? Au fond de mon sommeil, je sus que je m'adressais à elle par l'art.
Ils se disputent. Même sans qu'ils parlent, leur querelle envahit la maison comme des toiles d'araignée et chaque mot que quelqu'un prononce s'y trouve empêtré. Ils se conduisent comme si je ne pouvais les aimer tous les deux, comme si je devais choisir entre eux, et c'est impossible.
Qui se dispute ?
Mon père et mon frère. Ils sont rentrés sains et saufs, comme tu l'avais prédit, mais dès qu'ils sont descendus de cheval, j'ai senti leur rage gronder entre eux. J'en ignore la cause. Mon père refuse d'en parler et il a interdit à mon frère de me la révéler. Mais c'est quelque chose de honteux, de maléfique et d'horrible. Pourtant mon frère ne veut pas en démordre. Il y tient de tout son cœur. Cela me dépasse. Lest est un gentil garçon, doux et obéissant, qui n'élève jamais la voix. Qu'a-t-il bien pu découvrir qui exerce une telle séduction sur lui et provoque une telle horreur chez mon père ?
Je voyais son esprit échafaudé à tâtons de noirs soupçons sur son frère à la nature pourtant aimable, tant elle désirait savoir ce qui le déshonorait si profondément aux yeux de son père. Mais elle était incapable d'imaginer de malignité assez grande chez un enfant de son âge. Du coup, elle en venait à penser que son père n'avait plus toute sa raison. Mais cette idée n'était pas plus admissible, et ses idées oscillaient ainsi sans cesse entre deux pôles insupportables. Entre-temps, la tension grandissait dans sa famille.
Il ne laisse plus mon frère sortir seul. Il l'oblige à l'accompagner dans tous ses travaux de la journée. Mais il lui défend de promener ou de soigner les chevaux. C'est mon père qui s'en occupe, et l'Est doit le regarder sans intervenir. Je n'y comprends rien, et mes autres frères non plus. Mais quand nous posons des questions, papa prend un air sévère et se tait. Ça nous rend tous malheureux, et je ne sais pas combien de temps encore l'Est courbera les chines. Je crains qu'il ne se laisse aller à un geste désespéré.
Que redoutes-tu ?
Je l'ignore, sinon je serais en mesure de l'empêcher.
Je n'ai aucune idée de la façon dont je pourrais t'aider. J'avais soigneusement formulé ma réponse pour en élaguer tout savoir personnel. Que penserait-elle de l'Est si elle apprenait qu'il avait le vif ? En quels termes Burick et Molly parlaient-ils de cette magie chez eux, si même ils l'évoquaient ? Horty n'avait pas mentionné la réaction de sa mère, et je ne trouvais pas le courage de m'en enquérir.
Je n'espérais pas que tu pourrais m'aider, fantôme de loup. C'est pourquoi je n'ai pas fait appel à toi, mais je te remercie d'être venu, même si tu ne peux rien.
Soupir.
Quand tu te coupes de moi, j'éprouve un sentiment de solitude que je ne m'explique pas. Tu as toujours été là, aux confins de mes rêves, à les observer à travers moi, et puis tout à coup, tu t'es retiré. Je ne sais toujours pas pourquoi, pas plus que je ne sais qui tu es. Ne veux-tu pas me le révéler ?
C'est impossible. Je perçus la dureté de mon refus et sentis l'art vibrer de la peine d'Horty. Malgré moi, j'essayais d'adoucir ma réponse. Je ne peux rien te révéler. Par certains côtés, je représente un danger pour toi. Aussi, m'efforçais-je de rester à l'écart de toi. Tu n'as pas vraiment besoin de moi. Néanmoins, dans la mesure de mes moyens, je te garderai, et je te protégerai, et je viendrai à toi quand je jugerai pouvoir t'être utile.
Tu te contredis. Tu es en danger pour moi, mais tu me protèges. Je n'ai pas besoin de toi, mais tu viendras à moi quand j'aurai besoin de toi. Ça ne veut rien dire.
En effet. Reconnus-je avec humilité. C'est pour ça que je ne peux rien t'expliquer, Horty. Voici le seul conseil que j'ai à te donner. Ce qui se passe entre ton père et ton frère ne regarde qu'eux. Ne laisse pas leur désaccord se dresser entre eux et toi, même si c'est difficile. Ne retire ta confiance à aucun d'entre eux, ni ton amour.
Comme si j'en étais capable, fit-elle d'un ton amer. Si je pouvais ne plus les aimer, je ne souffrirais plus de leur antagonisme.
Je m'effaçais de son rêve, et notre conversation s'arrêta là. Cette rencontre ne m'avait apporté aucun réconfort, et n'en avait sans doute guère procuré davantage à Horty, et je partageais désormais son souci. Burick avait toujours fait preuve d'un caractère rigoureux, quoique juste selon sa propre définition de l'équité. Il s'était souvent montré dur avec moi, mais jamais cruel. S'il m'avait fréquemment donné une calotte ou une bourrade impatiente, il m'avait rarement battu. Et les quelques corrections qu'il m'avait administrées visaient toujours à m'inculquer une leçon, non à me faire souffrir. Les punitions corporelles qu'il m'avait infligées m'apparaissaient aujourd'hui justifiées, mais je craignais que l'Est, au contraire de moi, ne se rebelle ouvertement, et j'ignorais quelle serait la réaction de son père. Burick était convaincu qu'un enfant placé sous sa responsabilité avait péri d'une mort horrible parce qu'il n'avait pas su le débarrasser du vif. Regarderait-il comme son devoir de protéger son fils d'un sort semblable ? Dût-il pour cela employer les méthodes les plus impitoyables ? J'avais peur pour eux deux, et ne disposais d'aucun exutoire pour mon angoisse. À l'aube du quatrième jour, je me réveillais avec une impression de vigueur retrouvée et des fourmis dans les jambes. Je me jugeais assez remis pour aller faire un tour dans le château. Il était temps de reprendre le cours de mon existence. J'empochai les plumes cachées sous mon oreiller et descendis dans la chambre de Tom Blaireau pour m'habiller. J'avais à peine refermé la porte de l'escalier dérobé qu'on frappa à l'autre. Je franchis en deux enjambées la distance qui m'en séparait et l'ouvris. Sire Doré recula d'un pas, l'air surpris.
« Ah, je crois qu'il est réveillé, finalement, et vêtu, en outre, à ce que je constate. Eh bien, vous sentez-vous davantage vous-même, Blaireau ?»«
Un peu. » répondis-je en essayant de voir par-dessus son épaule celui ou celle au bénéfice de qui il jouait la comédie. J'eus tout juste le temps de remarquer l'expression de saisissement qui se peignit sur son visage à la vue de ma balafre revenue et de mon nez à nouveau cassé avant que Heur ne le bouscule presque pour arriver jusqu'à moi.
Mon garçon me prit par les épaules et me contempla avec épouvante. « Tu as une mine affreuse. Recouche-toi, Tom. »
Et dans le même souffle, il s'adressa à Sire Doré.
« Messire, je vous demande pardon, vous aviez raison, je croyais que vous exagériez son état, mais vous avez bien fait d'interdire qu'on lui fasse visite, je m'en rends compte. Je vous présente mes plus humbles excuses pour mes méchantes paroles. »
L'intéressé eut un petit toussotement bourru.
« Bien, je n'espère pas d'un jeune campagnard qu'il connaisse les manières courtoises, et je conçois l'inquiétude que vous inspirait votre père. » Aussi, bien que je n'ai guère apprécié vos apparitions intempestives qui me tiraient du lit à des heures indues, ni votre impolitesse quand je vous refusais de voir Tom, je pardonne votre conduite. De même que vous m'excuserez tous deux, je n'en doute pas, de me retirer pour vous permettre de jouir de vos retrouvailles.
Il s'en alla et nous laissa seuls dans ma chambre exiguë. Heure n'eut guère à insister pour que je m'asseye sur le lit bas. La longue descente depuis la tour d'Imbre m'avait vidé de mes forces. Le jeune garçon prit place à côté de moi, une main sur mon épaule. Il me dévisagea avec une grimace d'apitoiement devant mon émaciation.
« Ça me fait plaisir de te voir, »
dit-il d'une voix étranglée. Il me parcourut du regard encore un moment, les traits figés, puis ses yeux s'emplirent soudain de larmes. Et il enfouit sa figure dans mes mains en se balançant d'avant en arrière.
« Tom, j'ai cru que tu allais mourir !»
fit-il entre ses doigts. Et puis, il se tut. Le souffle court, luttant pour maîtriser les sanglots qui montaient en lui. Je le pris par les épaules, le serrai contre moi, et il éclata en pleurs convulsifs. Il était redevenu mon petit garçon, et un petit garçon qui avait eu très peur. D'une voix entrecoupée, il déclara
« Je suis venu tous les matins, avant l'aube, depuis qu'on t'a ramené ici, et chaque fois Sire Doré m'a répondu que tu étais trop faible pour recevoir des visites. » J'ai d'abord tâché de me montrer patient, mais ces derniers jours... »
Il avala sa salive.
« J'ai été très grossier avec lui, Tom. Je me suis comporté en vrai malotru. J'espère que tu n'en pâtiras pas. Je voulais seulement... »
Je l'interrompis, la bouche contre son oreille, d'un ton calme et rassurant. « J'ai été gravement malade, et je me remets encore lentement. Mais je ne vais pas mourir, mon fils. Pas cette fois. » Tu pourras encore passer me voir ici quelque temps. Quant à Sire Doré, il t'a dit qu'il te pardonnait. Tu n'as donc plus à t'inquiéter. Il saisit ma main posée sur son épaule entre les siennes et la serra fort. Au bout d'un moment, il se redressa et se tourna vers moi. Ses joues étaient sillonnées de larmes.
« J'ai cru que tu allais mourir sans que j'aie le temps de te dire que je regrettais ma conduite. » Je savais que tu avais presque renoncé à t'occuper de moi, parce que tu m'adressais à peine la parole, et tu ne venais plus me voir. Et puis, tu as reçu cette blessure, et on ne m'a pas laissé te rendre visite dans ta cellule, ni après d'ailleurs, quand on t'a ramené ici. Et moi, je ne cessais de me répéter que tu allais disparaître, persuadé que j'étais un imbécile et un ingrat, qui ne mesurait pas tout ce que tu avais fait pour moi. Mais tu avais raison, tu sais. J'aurais dû t'écouter. C'est ça que je tenais à te dire, tu avais raison. Et mes yeux se sont dessillés.
À quel sujet ? Demandai-je, le cœur serré, car je connaissais déjà la réponse. Il renifla en détournant le regard.
Au sujet de Svania.
Il poursuivit d'une voix grave et voilée.
Elle m'a repoussé, Tom, du jour au lendemain, et il paraît qu'elle a déjà quelqu'un d'autre. Et ça ne date peut-être pas d'hier. C'est un marin d'un gros navire de commerce. »
Il baissa la tête et avala sa salive.
« Il devait déjà être intime avant son dernier embarquement au printemps. Il est revenu maintenant. Et il lui a rapporté des boucles d'oreilles en argent, de belles robes et du parfum d'épices de l'autre bout du monde. Il a offert des cadeaux à ses parents aussi. Il l'apprécie beaucoup. »
Il avait baissé le ton à mesure qu'il parlait. Si bien que j'avais eu peine à entendre ces derniers mots.
« Si j'avais su, »
fit-il, puis sa voix mourut. Je jugeai opportun de me taire.
Une nuit, je l'ai attendue, et elle ne s'est pas présentée. J'ai commencé à me ronger les sangs, à m'effrayer pour elle. J'avais peur qu'il ne lui soit arrivé malheur alors qu'elle venait me rejoindre. Finalement, j'ai rassemblé mon courage et je me suis rendu chez elle.
Comme je m'apprêtais à frapper à la porte, j'ai entendu son rire à l'intérieur. Je n'ai pas osé toquer parce que son père ne peut pas me voir. Avant, sa mère me détestait moins que lui, mais du jour où tu t'es battue avec son mari, elle... Enfin bref. J'ai cru que Svania n'avait pas pu sortir, tout simplement, ou plutôt s'éclipser discrètement pour aller me retrouver, parce que son père s'était mis à la tenir drôlement à l'œil. Il s'interrompit, rougissant. C'est étrange. Quand j'y repense, notre attitude me paraît ridicule et puérile. Nos rencontres en cachette, à l'abri des regards de son père, les mensonges qu'elle débitait à sa mère pour passer du temps avec moi. Je n'avais pas cette impression sur le moment. Pas du tout. Je croyais vivre une grande histoire d'amour à laquelle nous vouait le destin. Svania le répétait toujours. Nous étions faits l'un pour l'autre, et rien ne devait se dresser entre nous. Les tromperies et les faux-semblants n'avaient pas d'importance, parce que nul ne pouvait nier la vérité de notre amour.
Il se frotta le front de la paume des mains.
Et j'y croyais. J'y croyais dur comme fer.
Je soupirai, mais me sentis contraint de répondre. Si tu n'y avais pas cru, Heure, ton comportement n'aurait pas été seulement stupide, mais inqualifiable. Puis je me tus. Ne venais-je pas de jeter de l'huile sur le feu ?
Je me sens ridicule,
reconnut-il au bout d'un moment.
Et le pire, c'est que je l'accueillerais à bras ouverts si elle me revenait. Je la sais infidèle, naguère à lui, aujourd'hui à moi. Mais je serais prêt à tout recommencer, même si je devais toujours me demander si je saurais la garder.
Après un silence, il poursuivit à mi-voix.
Est-ce ce que tu as éprouvé quand je t'ai appris qu'Astérie était mariée ?
La question était délicate, surtout parce que je me refusais à lui avouer que je n'avais jamais vraiment été amoureux de la ménestrelle. Je me contentais donc de répondre. Je ne pense pas qu'il existe deux chagrins exactement semblables, Heure. Mais, quant à se sentir ridicule,
ah oui,
j'y suis passé, moi aussi.
J'ai bien cru en mourir, reprit-il avec feu. Le lendemain, Maître Guindast m'a envoyé faire une course.
Il me confie désormais ses emplettes en ville parce que je suis très pointilleux sur ce qu'il désire et le prix qu'il accepte d'y mettre. Alors que je marchais d'un bon pas, j'ai vu un couple venir en sens inverse, et j'ai songé, c'est incroyable ce que cette jeune fille ressemble à Svania, on croirait sa sœur. Et je me suis rendu compte soudain que c'était Svania elle-même, mais parée de boucles d'oreilles en argent et d'un châle d'une teinte violette que je n'avais encore jamais vue. Son bras était passé dans celui de l'homme qui l'accompagnait, et elle le regardait avec une expression qu'elle me réservait jusque-là. Je n'en croyais pas mes yeux. Je suis resté planté dans la rue, bouche bée, et comme il me croisait, elle m'a lancé un coup d'œil. Tom. Elle a rougi, mais elle a fait semblant de ne pas me reconnaître. Je ne savais pas comment réagir. Nous avions du temps nous cacher pour nous aimer, que je me suis dit que l'homme devait être son oncle ou une relation de son père, et qu'elle devait feindre de ne pas me voir. Mais en réalité, j'avais compris que c'était faux. Quand je me suis rendu au port coincé deux jours plus tard, dans l'espoir de l'y rencontrer, les clients de la taverne se sont moqués de moi et m'ont demandé quel effet ça faisait de se retrouver menu fretin à présent que le gros poisson mordait à nouveau. Je n'ai pas saisi tout de suite le sens de leur raillerie, mais ils me l'ont vite expliqué, et en détail. Jamais je n'ai éprouvé pareille humiliation, Tom. C'est tout juste si je ne me suis pas enfui de l'établissement, et ma honte est telle que je n'y ai plus remis les pieds de peur de tomber nez à nez avec les tourtereaux. D'un côté, j'en meurs d'envie pour révéler son infidélité à son compagnon et lui dire à elle que j'ai ouvert les yeux sur sa nature méprisable. De l'autre, pourtant, je n'aspire qu'à me battre avec lui et le vaincre pour voir si ça me la ramènerait. J'ai l'impression d'être à la fois un crétin et un lâche.
Tu n'es ni l'un ni l'autre, répondis-je, bien conscient qu'il lui était impossible de me croire.
Le plus sage consiste à refermer la parenthèse. Bats-toi, reconquiers-la, et qu'auras-tu gagné ?
Une femme semblable à une chienne en chaleur qui choisit le chien le plus fort ?
Dis-lui ces quatre vérités. Attire-toi son dédain, et tu n'auras réussi qu'à mettre le comble à ton humiliation. Si ça peut te consoler, songe qu'elle s'étonnera toujours de la facilité avec laquelle tu l'as laissé partir.
Triste consolation. Les femmes fidèles existent-elles, Tom ?
Il s'exprimait avec tant d'accablement que mon cœur se serra de le voir sitôt désabusé.
« Oui, elles existent, » répondis-je avec conviction.
« Tu es encore jeune. Tu as toutes les chances d'en trouver une. »
« Non, pas vraiment, »
fit-il en se levant brusquement, un sourire là sur les lèvres.
« Je n'ai pas le temps de chercher. Tom, pardonne-moi de rester si peu, mais je dois me dépêcher si je veux être à l'heure à l'atelier. Le vieux Guindast est un vrai tyran. Depuis que j'ai appris que tu étais blessé, il m'octroie un délai à l'aube pour me permettre d'essayer de te voir, mais il exige que je rattrape mon travail le soir. »
« Il a raison. Le travail, c'est le meilleur remède contre les soucis et les peines de cœur. Absorbe-toi dans les tâches qu'on te confie hier, et ne te fais pas reproche de ta stupidité. Chacun commet sa part d'erreur dans ce domaine. » Il me regarda un moment sans parler, puis il secoua la tête.
« Chaque fois que je crois avoir un peu grandi, je me surprends à me conduire encore comme un gamin. Je viens prendre de tes nouvelles, rongé d'inquiétude à ton sujet, et dès que je te vois capable de tenir debout, je n'ai rien de plus pressé que de m'épancher sur toi de mes malheurs. Tu ne m'as rien dit de ce qui t'était arrivé. »
Je réussis à sourire. Et je préfère que cela reste ainsi, fils. J'aime mieux oublier ces souvenirs. Laissons-les au passé.
Alors, adieu pour le moment. Je repasserai te voir demain matin.
Non, non, je t'en prie. Si tu es venu tous les jours, et je n'en doute pas, tu dois en avoir assez. Ma convalescence avance bien, comme tu peux le constater. Je descendrai bientôt te rendre visite. Je demanderai à Guindast qu'il t'accorde ton après-midi, et nous pourrons bavarder à notre aise.
« Ça me ferait plaisir, » dit-il,
et sa sincérité me fit chaud au cœur. Il me donna une dernière étreinte, et je craignis que sa vigueur juvénile ne brisât comme verre mes os affaiblis. Puis il sortit, et je restai à regarder l'encadrement de la porte, perdu dans mes réflexions. Pour la première fois depuis des mois, j'avais le sentiment d'avoir retrouvé mon heur. Comme, à geste laborieux, je tirais des vêtements propres de mon coffre et les enfilais, je songeais que mon soulagement se teintait de culpabilité. Je ne devais pas empêcher Heur de grandir. Je ne devais pas espérer qu'il restât mon Heur. Davantage qu'Imbre ne pouvait m'obliger à demeurer son garçon. Me réjouir que sa peine et sa déception l'eussent rapproché de moi et convaincu de ma sagesse constituait une sorte de trahison. À notre prochaine rencontre, il me faudrait lui avouer n'avoir nullement prévu l'infidélité de Svania, mais seulement m'être inquiété parce qu'elle le détournait de son apprentissage. Cette perspective ne me souriait pas. Enfin habillé, je gagnais les appartements de Cire Dorée. Je ne me déplaçais plus comme un vieillard branlant, mais je devais conserver une allure lente et prudente. Le serviteur n'avait pas encore apporté le petit déjeuner. Le fou était assis devant le feu, l'air là. Je le saluai d'un hochement de tête, puis posai le paquet contenant les plumes sur la table. « Je crois que ceci t'est destiné, » dis-je d'une voix sans inflexion. Comme je déroulais le tissu, il quitta son fauteuil, s'approcha et me regarda sans un mot disposer les plumes côte à côte.
« Elles sont extraordinaires. Où les avez-vous trouvées, Blaireau ?»
demanda-t-il enfin, contraint par mon silence à m'interroger. Je ressentis comme un camouflet qu'il persista à s'exprimer avec l'accent jamaïlien du seigneur Doré. Quand Devoir et moi avons traversé le pilier d'art, il nous a conduits sur une plage, et c'est là que je les ai découvertes. Elles gisaient parmi les morceaux de bois et les algues, comme si la mer les avait rejetées là. Je les ai ramassées les unes après les autres, en suivant la ligne de marée.
« Tiens donc, je ne connaissais pas cette anecdote !»
Une question se dissimulait dans cette remarque apparemment détachée. Lui avais-je caché ma trouvaille de façon intentionnelle, ou bien n'y avais-je pas attaché d'importance, et l'avais-je oubliée ? Je répondis du mieux que je pus. Je garde un souvenir étrange de mon séjour sur cette grève, comme si elle existait hors du temps. À mon retour, les événements se sont précipités. Le combat pour reprendre Devoir, la mort d'Œil de Nuit, puis notre trajet jusqu'à Castelserre, sans possibilité de nous entretenir seul à seul. Ensuite, il y a eu les fiançailles et tout le reste. Alors même que je les énonçais, mes raisons me paraissaient mauvaises. Pourquoi ne lui avais-je pas parlé des plumes ?
Je les ai déposés dans la salle de travail d'Imbre, et depuis, je n'ai jamais trouvé l'occasion de te les apporter. » Il continua de regarder fixement les plumes sans rien dire. Je l'imitais. Côte à côte sur le tissu grossier, grise et terne, elle n'offrait apparemment aucun intérêt particulier. Pourtant, il émanait d'elle une impression de profonde étrangeté. Objet trop parfait pour avoir été créé de main d'homme, et néanmoins artificiel à l'évidence. J'éprouvais une singulière répugnance à les toucher.
« Je vois, »
fit enfin Sire Doré.
« Eh bien, merci de me les avoir montrés. »
Et il retourna près de la cheminée. Je ne comprenais pas sa réaction. Je fis une nouvelle tentative. Je crois qu'elles font partie du coq couronné, fou.
Vous avez raison, sans aucun doute,
répondit-il d'un ton égal et dépourvu d'intérêt. Il s'assit devant l'âtre, jambes étendues. Au bout d'un moment, il croisa les bras et posa son menton sur sa poitrine, les yeux fixés sur le feu. Une violente colère m'envahit, semblable à une flamme purificatrice, et l'espace d'un instant, j'eus envie de le saisir au col et de le secouer en exigeant qu'il redevienne le fou. Puis ma fureur retomba, et je demeurai tout tremblant et au bord de la nausée. Je sentis alors que j'avais tué le fou, que je l'avais détruit en demandant autoritairement des réponses aux questions qui étaient toujours restées en suspens entre nous, sans jamais être posées. J'aurais dû savoir que jamais je ne parviendrais à le comprendre comme je comprenais les autres. Notre ciment, c'était la confiance et non l'analyse. Mais j'avais brisé cet édifice comme un enfant qui démonte un objet pour en saisir le fonctionnement et se retrouve avec une poignée de pièces inertes. Peut-être était-il incapable de redevenir le fou, tout comme il m'était impossible de redevenir le garçon d'écurie de Burick. Peut-être notre relation avait-elle changé trop profondément pour que nous demeurions Fitz et le fou l'un pour l'autre. Peut-être ne nous restait-il plus que Tom Blaireau et Sire Doré. Soudain, là et à nouveau sans force, je roulais sans un mot les plumes dans le tissu, les emportais dans ma chambre et fermais la porte. J'ouvris l'issue secrète, la franchis, la rabattis derrière moi et entamais la longue montée jusqu'à ma salle de travail. J'arrivais au lit titubant d'épuisement. Sans prendre la peine de me dévêtir, je me glissais entre les draps et sombrais peu après dans un profond sommeil. Quand je me réveillais des heures plus tard, j'avais faim, et le feu se mourait dans la cheminée. Me lever, manger, alimenter la flambée. Non, rien de tout cela n'en valait l'effort. Je me renfonçais sous mes couvertures et trouvais de nouveaux refuges dans l'inconscience. Mon réveil suivant fut provoqué par la présence de quelqu'un qui se penchait sur moi. Je poussai un cri d'effroi et saisis le prince à la gorge avant d'avoir le temps de le reconnaître. L'instant d'après, je me rejetai en arrière, haletant, tandis que mon affolement s'apaisait.
« Excusez-moi, excusez-moi, »
bredouillai-je. Le prince, à bonne distance du lit, se massait le cou et me dévisageait, les yeux exorbités.
« Qu'est-ce qui vous a pris ? »
fit-il d'une voix rauque, entre peur et colère. J'aspirai une grande goulée d'air, la gorge sèche. J'étais couvert de transpiration, je tremblais, je me sentais les paupières collantes et la bouche pâteuse.
« Excusez-moi, »
répétai-je, « vous m'avez réveillé trop brusquement. J'ai eu peur. » Je me dépêtrai de mes couvertures et me levai mal assuré sur mes jambes. Je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. J'avais le sentiment que ma frayeur se raccrochait à un cauchemar dont je ne parvenais pas à me souvenir. Je parcourus ma chambre du regard, l'esprit vague et désorienté. Lourd était assis dans le fauteuil d'Imbre, les chaussures tendues vers le feu. Il portait une tunique et un pantalon du bleu de la domesticité, apparemment neuf et taillé à ses mesures. À quand donc remontait ma promesse de lui fournir des vêtements en bon état? Imbre avait dû s'en occuper. Les flammes crépitaient joyeusement dans la cheminée et un plateau chargé de victuailles reposait sur la table.
C'est à vous que je dois tout cela. Merci.
Je m'approchai de la table et me versai un verre de vin. Le prince me regarda d'un air égaré.
« Que vous devez quoi ? » Je baissai le verre que je venais de terminer. J'avais toujours la bouche comme du parchemin. Je me servis une nouvelle rasade de vin, la bus sec et repris ma respiration. « La nourriture, le feu, le vin, » répondis-je enfin.
« Non, tout se trouvait là à notre arrivée. »
Je recouvrais peu à peu mes sens et mon cœur revenait à un rythme normal. Ambre avait dû passer pendant mon sommeil. Tout à coup, l'évidence me sauta aux yeux. « Comment êtes-vous entré ici ?» demandai-je au prince.
« C'est l'ours qui m'a montré le chemin. »
Le simple d'esprit tourna la tête en entendant son nom, et le prince et lui échangèrent un sourire de connivence. Je sentis un contact entre eux, une transmission trop rapide et trop maîtrisée pour que je la capte. L'ours eut un petit rire, puis se renfonça dans son fauteuil avec un soupir, face au feu. « Vous n'avez rien à faire ici, » dis-je d'un ton catégorique. Je m'assis à table et remplis mon verre encore une fois, puis je tâtai la marmite de soupe sur le plateau. Malgré son couvercle, elle était à peine tiède. De toute manière, manger me paraissait au-dessus de mes forces. Je bus mon vin.
Et pourquoi n'aurais-je rien à faire ici? Pourquoi ne connaîtrais-je pas les dessous du château où je suis appelé à régner un jour? Me juge-t-on trop jeune, trop stupide ou trop indigne de confiance?
Je n'avais pas pensé toucher un point aussi sensible, et je me rendis compte que je n'avais aucune bonne réponse à lui fournir. Aussi déclarai-je d'un ton apaisant. Je croyais qu'Ambre ne voulait pas vous montrer cette pièce.
C'est sans doute le cas.
Devoir vint s'asseoir à côté de moi, tandis que je me servais un nouveau verre de vin.
Il doit y avoir bien d'autres secrets qu'Ambre préférerait garder pour lui. Il adore les cachotteries. Il en a rempli Castelcerf comme une pie accumule les cailloux brillants, et pour la même raison, il aime en faire collection.
Il me lança un regard critique.
Vos cicatrices sont revenues? Les effets de la guérison d'art se sont dissipés?
Non. Ambre et moi les avons recréés. Ça nous a paru plus avisé, pour éviter les questions gênantes. Il acquiesça de la tête sans cesser de me dévisager.
Vous avez à la fois meilleure et moins bonne mine.
Vous ne devriez pas boire tant sans rien dans l'estomac. Les plats sont froids.
Eh bien, il suffit de les réchauffer.
Ma bêtise l'impatientait. Je pensais qu'il allait charger l'ours du travail, mais il prit lui-même la marmite, touilla la soupe qu'elle contenait et referma le couvercle. Puis, aussi adroitement que s'il avait l'habitude de ce genre d'exercice, il la suspendit au crochet de la cheminée, qu'il fit ensuite pivoter pour la placer au-dessus du feu. Il rompit la petite miche de pain en deux et la mit à tiédir sur une assiette près des braises.
« Voulez-vous de la tisane? Ça vous ferait plus de bien que tout le vin que vous ingurgitez. »
Je posai mon verre vide sur la table, mais ne le remplis pas.
« Vous me sidérez parfois.
Vous avez des connaissances inattendues pour un prince. »«
Bah, vous savez les idées de ma mère. Elle est au service du peuple. Quand j'étais enfant, elle souhaitait que je reçoive l'éducation d'un oblat, c'est-à-dire que j'apprenne à exécuter les tâches les plus communes aussi bien qu'un paysan. » Comme elle rencontrait des difficultés pour atteindre son objectif à Castelcerf, elle a décidé de m'éloigner des domestiques qui se précipitaient pour obéir à mes moindres désirs, et elle a voulu m'envoyer quelque temps au royaume des montagnes. Mais Ambre l'a exhortée de ne pas me faire quitter les six duchés, et il ne lui restait plus qu'une solution de son point de vue. C'est ainsi qu'elle m'a confié à l'âge de 8 ans à Dame Patience, dont je suis resté le page pendant 1 an et demi. Inutile de vous dire qu'elle ne m'a pas dorloté comme un petit prince. D'ailleurs, les 2 premiers mois, elle ne parvenait pas à se rappeler mon nom. Néanmoins, elle m'a enseigné quantité de choses dans des domaines extraordinairement divers.
Mais ce n'est pas d'elle que vous tenez vos talents culinaires, fis-je avant de pouvoir retenir ma langue.
Et pourtant si, répondit-il avec un sourire malicieux, par nécessité. Elle avait souvent envie d'un plat chaud tard le soir dans sa chambre, et si elle tentait de se débrouiller seule, elle le laissait brûler et enfumait ses appartements. J'ai beaucoup appris auprès d'elle, mais vous avez raison, la cuisine n'était pas son fort. C'est Brodette qui m'a montré comment réchauffer un repas dans la cheminée. Entre autres, grâce à elle, je manie mieux le crochet que la moitié des dames de la cour.
Vraiment ? Demandai-je avec un intérêt poli. Dos à moi, il tournait la soupe dont l'odeur appétissante parvint soudain à mes narines. Il n'avait pas remarqué mon petit faux pas. « Oui, je vous apprendrai un jour, si ça vous tente. » Avec précaution, il décrocha la marmite, touilla encore une fois le contenu et la rapporta en même temps que le pain. Alors qu'il la déposait devant moi comme s'il était mon page, il poursuivit. « Brodette disait qu'enfant, vous étiez incapable d'apprendre parce que vous ne teniez pas en place. » J'avais pris ma cuillère. Je la reposais. Devoir retourna auprès du feu pour jeter un coup d'œil à la bouilloire. « Non, l'eau n'est pas encore assez chaude, » fit-il, et il ajouta. « Brodette me répétait toujours que la vapeur doit jaillir d'un bon empan du bec si on veut une tisane bien infusée. Mais j'imagine qu'elle vous l'a appris aussi. Dame Patience et elle me racontaient quantité d'anecdotes sur vous. Ici, à Castelserre, je n'avais presque jamais entendu parler de vous, et c'était toujours avec colère ou regret. Mais à Guédonégos, on aurait cru qu'elle ne pouvait s'empêcher de m'entretenir de vous, même si Patience finissait souvent en larmes. C'est d'ailleurs un point que je ne comprends pas. Elle vous croit mort, et il ne se passe pas un jour sans qu'elle pleure votre disparition. Comment pouvez-vous la laisser dans cet état? Votre propre mère. Dame Patience n'est pas ma mère, répondis-je d'une voix défaillante. C'est ce qu'elle prétend pourtant. Elle décidait tout le temps de ce que, selon elle, j'avais envie de manger, de faire ou de porter, et si j'affirmais des préférences différentes, elle déclarait « Ne dites pas de bêtises, je sais ce que vous aimez, je connais les petits garçons, j'ai eu un fils autrefois. » C'est de vous qu'elle parlait, expliqua-t-il au cas où cette conclusion m'aurait échappé. Je restais muet, pétrifié. Je songeais que je n'étais pas encore remis, que mon séjour douloureux dans une cellule glacée, la guérison d'art, la recréation de mes cicatrices et même le dédain du fou pour mes offres de paix m'avaient épuisé et laissé sans force. C'était pour cela que je tremblais, que ma gorge se serrait et que je ne savais comment réagir quand un secret jusque-là parfaitement gardé éclatait soudain au grand jour. Une terrible obscurité m'engloutit, plus accablante que les plus noirs effets de l'écorce elfique, et les larmes me montèrent aux yeux. « Peut-être, me dis-je, ne couleront-elles pas si je ne bats pas des paupières? Peut-être, si je conserve une totale immobilité, mes muqueuses finiront-elles par les réabsorber ?» La bouilloire se mit à souffler des bouffées de vapeur, et Devoir alla s'en occuper. J'en profitai pour m'essuyer rapidement les yeux. Revenu de la cheminée, le prince inclina le récipient, d'où émanait un sourd grommellement. Échauda les herbes de la tisanière, puis... Alors qu'il allait le reposer dans l'âtre, il s'adressa à moi par-dessus son épaule. À son ton préoccupé, je compris que mon impassibilité apparente ne l'avait pas trompé. Il avait dû percevoir qu'il avait failli me briser, et cela le pénétrait d'angoisse. « Ma mère m'a tout raconté, » fit-il, presque sur la défensive. « Imbre et elle étaient dans tous leurs états à l'idée que vous croupissiez en prison, gravement blessé. Le ton montait entre eux, et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Je me trouvais dans la même pièce qu'eux lors d'une de leurs disputes. Ma mère a décrété qu'elle allait descendre et vous sortir de votre cellule. Il a répondu que c'était à exclure, qu'une telle démarche n'aboutirait qu'à nous mettre, vous et moi, en plus grand danger encore. Elle a déclaré alors qu'elle allait me révéler l'identité de celui qui agonisait pour moi au fond d'une geôle. Imbre a voulu le lui interdire. Et elle a rétorqué qu'il était temps que j'apprenne ce que signifiait être l'oblat de son peuple. Ensuite, ils m'ont prié de sortir pendant qu'ils en débattaient entre eux. Il posa la bouilloire dans la cheminée et revint s'asseoir avec moi à table. Je détournai les yeux quand son regard croisa le mien. Savez-vous ce que sous-entend le fait que ma mère vous décrit comme un oblat? Savez-vous ce que ma mère voit en vous? Il poussa le pain dans ma direction. « Vous devriez manger. Vous avez une mine épouvantable. » Il s'interrompit, puis reprit. « Si elle vous baptise au blas, c'est qu'elle vous regarde comme le roi légitime des six duchés, et cela sans doute depuis que mon père est mort, ou plutôt qu'il s'est infusé dans son dragon. » Je levai brusquement les yeux vers lui. Elle lui avait tout raconté, en effet, et j'en étais ébranlé jusqu'à l'âme. Je jetai un coup d'œil à l'ours qui somnolait devant le feu. Le prince suivit mon regard, Il ne dit rien, mais le petit homme ouvrit soudain les paupières et se tourna vers lui.
« Ces plats n'ont rien d'appétissant, » fit le prince. « Crois-tu pouvoir nous trouver mieux aux cuisines ?»«
Une douceur, peut-être. »
Un sourire gourmand s'épanouit sur les traits de l'ours.
« Oui, je peux. Je sais ce qu'on prépare en bas. De la tourte aux pommes et aux bêtes tapées. »
Et il se lécha les lèvres. Quand il se leva, je remarquai avec surprise l'emblème du cerf loin-voyant sur le devant de sa tunique. « Descends par où nous sommes venus et reviens par le même chemin, s'il te plaît. Ne l'oublie pas, c'est important. » L'ours hocha vigoureusement la tête.
« Important, je n'oublie pas. Je le sais depuis longtemps. Sortir par la jolie porte, rentrer par la jolie porte, et seulement quand il n'y a personne. »
« Bravo, l'ours. Je me demande ce que je deviendrais sans toi. » Je perçus plus que de la satisfaction dans l'intonation du prince. Non, de la condescendance, mais... Ah, j'y étais. Une fierté de propriétaire. Il s'adressait au simple d'esprit, comme on parle à un matin de bonne race.
Le petit homme sortit. Je lui demandai. « Vous avez fait de lui votre homme-lige, au vu et au su de tout le monde ?»
Si mon grand-père avait pris un gamin albino, ses maigrichons comme bouffon et compagnon, pourquoi n'en ferais-je pas autant d'un idiot ?
Je fis une grimace. Vous ne permettrez pas qu'on se moque de lui, n'est-ce pas ?
Non, naturellement. Saviez-vous qu'il chante très bien ?
Malgré son timbre de voix qui donne à la mélodie un son inattendu, il a une excellente oreille. Je ne le garde pas toujours près de moi, mais assez toutefois pour qu'on ne le remarque plus. Et il est bien commode que nous soyons capables de communiquer sans être entendus. Je puis ainsi le prévenir quand je souhaite ou non sa présence. Il hocha la tête, l'air content de lui.
Je le crois plus heureux aujourd'hui. Il a découvert le plaisir des bains chauds et des vêtements propres, et je lui offre des jouets tout simples qui l'amusent beaucoup. Je n'ai qu'un seul souci. La femme qui l'aide à sa toilette m'a dit avoir connu deux autres personnes comme lui, et, d'après elle, elles ne vivent pas aussi longtemps que les gens ordinaires.
L'ours pourrait bien approcher déjà de la fin de ses jours. Savez-vous si cela est vrai ?
Je n'en ai aucune idée, mon prince.
Je lui avais donné son titre sans y prêter attention, mais cela fit naître sur ses lèvres un sourire malicieux.
Comment dois-je vous appeler si vous vous adressez ainsi à moi ? Estimé cousin ? Seigneur Fitz-Chevalerie ?
Tom Blaireau, répondis-je d'un ton catégorique.
Évidemment. Et sire doré. Je l'avoue, j'ai beaucoup moins de mal à vous concevoir en seigneur Fitz-Chevalerie qu'à imaginer sire doré en livrée de bouffon.
Il a parcouru une longue route depuis cette époque, dis-je, en m'efforçant d'empêcher le regret de percer dans ma voix. Quand la reine a-t-elle décidé de vous confier tous les secrets de la famille ?
Quelques heures après que nous vous avons guéri.
Elle m'a emmené dans votre chambre, par les passages secrets, et nous avons passé la nuit à votre chevet. Au bout d'un moment, elle s'est mise à parler. Elle m'a dit que, sans vos cicatrices, vous ressembliez beaucoup à mon père, que parfois, quand elle vous regardait, elle le voyait dans vos yeux. Et c'est alors qu'elle m'a tout raconté. Pas en une fois, bien sûr. Il lui a fallu 3 nuits, je crois, pour venir à bout de son récit. Installée sur un coussin près de votre lit, sans lâcher votre main. Elle me faisait asseoir par terre et ne laissait entrer personne.
Je n'avais aucune conscience de votre présence, ni de la sienne.
Il haussa les épaules.
Votre corps était guéri, mais votre esprit côtoyait le néant de si près que vous étiez quasiment mort. Vous ne répondiez pas à l'art, et mon vif vous percevait comme l'ultime brasillement d'une mèche de bougie. Vous risquiez de vous éteindre à tout instant. Mais, lorsque ma mère vous tenait la main et parlait, vous paraissiez briller un peu plus fort, et je crois qu'elle le sentait aussi. On aurait dit qu'elle cherchait à vous ancrer à la vie.
Je levai les mains, puis les laissai retomber, sur la table, dans un geste d'impuissance.
Je ne sais que dire, avouai-je brusquement.
J'ignore comment réagir au fait que vous êtes au courant de tout.
Je pensais que vous éprouveriez du soulagement. Même s'il faut préserver votre rôle de Tom Blaireau quelque temps encore dans le reste du château, au moins ici en privé,
Vous pouvez reprendre votre véritable identité sans avoir à surveiller sans cesse votre langue, ce que vous faites avec un bonheur relatif, de toute façon. Mangez votre soupe. Je n'ai pas envie d'être obligé de la remettre à chauffer. » La suggestion me parut opportune et me laissa le temps de réfléchir sans avoir à parler. Cependant, devoir me dévisageait si intensément que je me sentais comme une souris sous le regard d'un chat. Je finis par lui lancer un coup d'œil furieux et il éclata de rire en secouant la tête. « Vous n'imaginez pas ce que je ressens. Je vous observe et je me demande, atteindrai-je sa taille une fois adulte ? Mon père fronçait-il les sourcils ainsi avec cet air mauvais ? Je regrette que vos cicatrices soient revenues. J'ai plus de mal à me reconnaître dans vos traits. Vous êtes assis devant moi, je sais qui vous êtes. C'est comme si mon père faisait irruption pour la première fois dans ma vie. » Il s'agitait, s'excitait sur son siège, tel un chiot impatient de sauter sur mes genoux. Je ne parvenais pas à soutenir son regard. Une flamme y brûlait que je n'étais pas préparé à affronter. Je ne méritais pas cette adulation. « Votre père valait beaucoup mieux que moi, » dis-je enfin. Il eut une infime hésitation. « Apprenez-moi quelque chose sur lui, » fit-il d'un ton suppliant, « quelque chose que seul lui et vous saviez. » Je perçus l'importance qu'il attachait à cette prière et ne pus la rejeter. Je me creusais la cervelle. Devais-je lui révéler que Vérité n'avait pas eu le coup de foudre pour Ketriken, mais qu'il avait appris peu à peu à l'aimer ? Non, cela évoquait trop sa propre absence de sentiment pour Eliania. La dissimulation n'entrait pas dans le caractère de Vérité. Mais il ne me semblait pas que devoir me demandait un secret. Il aimait l'encre et le papier de bonne qualité, déclarai-je, et il taillait ses plumes lui-même. Il était très exigeant sur leur choix. Et il me traitait gentiment quand j'étais petit, sans raison particulière. Il me donnait des jouets, entre autres une petite charrette en bois et des figurines de soldats et de chevaux. « Vraiment ? Cela m'étonne. Je le croyais obligé de garder ses distances avec vous. » Je savais qu'il avait l'œil sur vous, mais dans ses lettres à votre père, il se plaignait de ne jamais voir Tom, le petit matou, que lorsqu'il trottait sur les talons du burrique. Je demeurais figé sur place. Il me fallut un moment pour songer à reprendre mon souffle, et je demandai alors. Vérité parlait de moi dans des lettres qu'il écrivait à Chevalerie ? Pas ouvertement, bien entendu. Patience a dû me les décrypter. Elle me les a montrées quand j'ai exprimé mon regret d'en savoir si peu sur mon père, et je les ai trouvées très décevantes. Il n'y en a que quatre, la plupart brèves et ennuyeuses. Il se porte bien. Il espère que Chevalerie et Dame Patience vont bien aussi. En général, il demande à son frère d'intervenir auprès de tel ou tel duc pour aplanir quelques différends politiques. En une occasion, il le prie de lui envoyer un bilan de la répartition des impôts pour l'année précédente. Puis viennent quelques lignes sur les récoltes ou la chasse, mais il y a toujours une phrase ou deux sur vous à la fin. Tom, le matou que Burick a adopté, semble s'acclimater. Hier, j'ai failli marcher sur Tom, le petit chat de Burick, qui traversait la cour à toute allure. J'ai l'impression qu'il grandit de jour en jour. C'est ainsi qu'il vous désignait, afin de tromper les espions, et même, au début, Patience elle-même, si jamais elle avait lu ses missives. Dans la dernière, on ne parle plus que de Tom, sans préciser qu'il s'agit d'un chat. Tom a fait une bêtise et Burick l'a corrigé d'importance, mais il a manifestement une absence étonnante de contrition. En vérité, c'est Burick que j'ai plaint le plus. Et pour terminer, il écrit toujours qu'il attend impatiemment la nouvelle lunaison ou qu'il espère une bonne récolte de palourdes au marais de pleine lune. Patience m'a expliqué qu'il se fixait ainsi une date pour artiser à l'unisson, un moment où il pouvait se retirer au calme. Nos pères respectifs étaient très proches, et leur séparation a été difficile quand Chevalerie s'est installée à Flétribois. Chacun manquait profondément à l'autre. Tom. Et Patience qui m'avait baptisé ainsi, par pure désinvolture, croyais-je. J'avais repris ce nom ignorant tout de son histoire. Le prince avait raison. Le château débordait de secrets. La moitié n'en était d'ailleurs pas. Il s'agissait seulement de questions que nous n'osions pas poser de peur que les réponses ne se révèlent insupportablement douloureuses. Je n'avais jamais interrogé Patience sur mon père. Je ne lui avais jamais demandé, pas plus qu'à vérité, ce que je représentais aux yeux de chevalerie. Les secrets de ma vie n'avaient leur origine que dans ma réticence. Le silence de mon père m'avait laissé supposer les pires jugements sur moi. Jamais il n'était venu me voir. Me regardait-il par les yeux de son frère? Devais-je leur reprocher de m'avoir tu ce que, selon eux peut-être, je savais? Ou bien devais-je me faire grief à moi-même de n'avoir jamais exigé la vérité? « La tisane est prête !» annonça Devoir en brandissant la bouilloire. Je pris conscience tout à coup qu'il me servait comme je l'eusse fait pour Humbre ou Subtil à son âge, avec déférence et respect. « Cessez !» dis-je, et repoussant sa main, je le forçai à reposer le récipient sur la table. Je m'en emparai, et tout en me servant moi-même, je le mis en garde. « Devoir, mon prince, écoutez-moi. Dans tous nos rapports, tenez-vous à me considérer comme Tom Blaireau. Aujourd'hui, nous évoquons ce qui se cache sous les apparences. Mais ensuite, il me faudra réendosser mon personnage de serviteur. Et vous devrez me voir sous cet aspect, tout comme vous ne devrez voir en Sire Doré personne d'autre que Sire Doré. C'est une épée sans garde ni poignée dont on vous a fait cadeau. Il n'est pas possible de la saisir, ni de la manier sans vous couper. Vous vous réjouissez de connaître ma véritable identité et vous me regardez comme un trait d'union entre votre père et vous. De tout mon cœur, je souhaiterais que la situation soit aussi simple et heureuse, mais le secret que vous avez appris, s'il parvenait à de mauvaises oreilles, causerait notre perte à tous. Je sais comme vous que votre mère chercherait à me protéger, et alors songez aux conséquences. Je suis non seulement un vifier notoire, mais aussi l'assassin présumé du roi Subtil, sans compter que j'ai tué plusieurs membres du clan d'art de Galen devant une salle entière de témoins. En outre, je ne suis pas aussi mort que beaucoup l'aimeraient. Ma résurrection porterait la haine et la peur qu'inspirent les vifiers à un nouveau paroxysme au moment où la reine s'efforce de mettre un terme à leur persécution. « À notre persécution », me reprit le prince avec douceur. Il s'adossa dans son fauteuil et prit une expression pensive, comme s'il essayait d'imaginer ce qu'entraînerait la divulgation de mon secret. L'air mal à l'aise, il dit « Sans le vouloir, vous avez déjà entravé les plans de la reine. Malgré tous les efforts d'Humbre afin de ne laisser transparaître aucun intérêt officiel pour votre sort, les rumeurs se sont quand même propagées selon lesquelles l'assassinat de Kepler, de Paget et du troisième larron reste impuni parce qu'ils avaient le vif. »
En effet, Humbre m'en a fait part, et on vous accuse d'avoir le vif, vous aussi.
Le prince inclina la tête.
Oui, mais c'est exact après tout.
Les Pies le savent, et peut-être aussi certains de ceux qui se réclament du lignage. Pour l'instant, ces derniers ont intérêt à garder le secret. Ils souhaitent cette rencontre avec la reine autant que ma mère. Mais la mort de ces trois hommes les pousse à redoubler de prudence, et ils parlent à présent d'exiger des garanties supplémentaires avant de se risquer à Castelcerf. Je tirai la conclusion logique de ces propos.
Ils veulent des otages. Ils désirent un échange, la vie de certains des nôtres, entre leurs mains tant que les leurs restent dans nos murs. Combien demandent-ils de personnes?
Il secoua la tête. Posez la question à Humbre ou à ma mère. D'après ce que j'entends de leur discussion, j'ai l'impression qu'elle communique directement avec le lignage et rapporte à son conseiller uniquement ce qu'elle juge nécessaire de lui apprendre, et ça le met en rage. Je crois qu'elle a réussi à calmer les inquiétudes de ses interlocuteurs et à fixer une nouvelle date de réunion. Humbre jurait que ce serait impossible sans accéder à des revendications démesurées de la part du lignage, et pourtant elle y est parvenue. Mais elle refuse de lui révéler par quels moyens, et il se ronge les sangs. Elle lui a rappelé qu'elle a grandi dans les montagnes et qu'accepter une exigence qu'il qualifierait de démesurée ou un risque inadmissible relève pour elle d'une question de principe.
Ça ne m'étonne pas. Je crois qu'on ne pourrait trouver pire torture pour lui qu'une affaire dans laquelle il n'aurait pas le droit de fourrer son nez.
Je m'exprimais avec calme, mais je me demandais avec inquiétude où la morale montagnarde de Kétriken concernant son rôle d'oblat allait nous entraîner. Devoir parut percevoir mes réserves. En effet, pourtant en l'occurrence, je me battrais aux côtés de ma mère. Il est temps qu'elle l'oblige à céder le pas devant elle. Si elle ne l'exige pas aujourd'hui, Cela augure mal du pouvoir dont je disposerai vraiment une fois sur le trône. » Un frisson glacé me parcourut. Il avait raison. Le seul point qui me rassurait était le calme et la mesure avec lesquelles il analysait la situation. Puis une pensée sarcastique modifia ma perception du prince. Il voyait clair dans les machinations d'Imbre parce qu'il était autant son élève que le fils montagnard de Kétriken. D'un ton aussi détaché que s'il parlait du temps qu'il faisait, il poursuivit. « Mais ce n'est pas le sujet dont nous nous entretenions. Vous prétendez que votre véritable identité doit rester dissimulée. Actuellement, c'est exact, j'en conviens. Certaines factions auraient tout intérêt à ce que vous mouriez pour de bon, et vous vous retrouveriez l'objet de la haine et de la peur de bon nombre de gens, sans compter qu'on accuserait les loin-voyants de protéger un régicide au seul motif qu'il fait partie de la famille royale. Plus intéressant encore serait l'impact de la nouvelle sur le lignage et l'épi. Le bâtard au vif représente pour eux une figure de ralliement depuis des années, et la rumeur selon laquelle il serait toujours vivant est devenue une sorte de mythe intouchable. Ah, écoutez, civil, on vous croirait l'égal d'un dieu.
Vous n'avez pas parlé de moi, civil, tout de même.
L'angoisse m'envahit soudain.
Bien sûr que non.
Enfin, pas de vous en tant que vous. Non, nous avons discuté de la légende de Fitz Chevalerie, le bâtard au vif, et seulement au détour d'une conversation. N'ayez crainte, même si j'estime que votre secret serait aussi en sécurité entre ses mains qu'entre les miennes.
Je soupirai de lassitude et de découragement. De voir. Votre loyauté est admirable, mais je doute de celle de civil. Les Brisinga vous ont trahi deux fois déjà. Voulez-vous leur fournir l'occasion d'une troisième? Il prit l'air buté.
On les y a contraint, Tom.
Ça me fait un drôle d'effet de vous appeler ainsi maintenant. Je refusais de mordre à l'appât. Il faudra vous y faire. Et si l'épi menace civil à nouveau, et qu'il recommence à espionner pour leur compte, ou pire?
Il ne lui reste plus personne dont il puisse se servir pour peser sur lui.
Il s'interrompit soudain et me regarda.
Je me rends compte tout à coup que je ne vous ai ni présenté mes excuses ni remercié. Je vous ai envoyé au secours de civil sans même penser que vous vous exposiez au danger. Et vous avez obéi et vous avez sauvé mon ami alors que vous ne l'appréciez guère. Et pour cela, vous avez failli mourir.
Il pencha la tête vers moi.
Comment vous exprimez ma gratitude?
Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes mon prince. Ses traits se figèrent et j'entrevis Kétriken dans ses yeux quand il dit
« Je n'aime pas ces relations. J'ai l'impression qu'elles nous éloignent l'un de l'autre. Je souhaiterais que vous et moi fussions seulement cousins. »
L'œil scrutateur, je répondis. Et pensez-vous que j'aurais agi différemment dans ce cas? Que j'aurais refusé d'aider votre ami sous prétexte que vous étiez seulement mon cousin? Il sourit, puis poussa un grand soupir de satisfaction.
« Je n'arrive pas encore à y croire, » fit-il à mi-voix.
Une expression proche du remords passa fugitivement sur son visage.
Lourd et moi n'avons pas l'autorisation de vous voir. Imbre nous a interdit les visites, ainsi que les tentatives de contact d'art tant que vous n'avez pas repris davantage de force. Je n'avais pas l'intention de vous réveiller. Je voulais vous regarder à nouveau, rien de plus. Mais quand j'ai constaté la réapparition des cicatrices, je n'ai pas pu m'empêcher de m'approcher trop.
J'en suis heureux. Je me tus à la fois mal à l'aise et béat sous le regard émerveillé dont il me gratifiait. Quelle étrange impression d'être aimé simplement pour ce que j'étais. J'éprouvais presque du soulagement au retour de Lourd. Il ouvrit la porte secrète de l'épaule. Les mains encombrées d'une grosse tourte prévue pour une bonne dizaine de convives, il haletait de sa montée dans les escaliers. Je le regardais porter son butin vers la table. Il arborait un large sourire, l'air très satisfait de lui-même. Je me rendis alors compte que je ne lui avais jamais vu cette expression. Ses petites dents écartées et sa langue à demi sortie au milieu de sa large face lunaire lui donnaient l'aspect d'un gobelin hilar. Si je ne l'avais pas connu, j'aurais sans doute trouvé le spectacle effrayant, mais le prince répondit à sa mine réjouie par un sourire de connivence, et je me surpris à les embrasser tous deux dans un regard ravi. Avec un claquement, il posa la tourte sur la table, puis repoussa gravement mon couvert afin de se donner la place de vrai et il se mit au travail en fredonnant. Je reconnus la mélodie de sa chanson d'art. Son humeur maussade paraissait l'avoir quitté. Je remarquai qu'il se servait pour trancher des parts monumentales du couteau que je lui avais acheté le jour fatal où j'étais descendu à Bourg-de-Castelserre. Ainsi donc, mes emplettes avaient été rapportées au château et on les lui avait remises. Le prince sortit des assiettes et lourd les garnit du résultat de sa découpe. Il veilla soigneusement à ne pas salir sa belle tenue, puis se mit à manger avec la prudence d'une grande dame étrennant une nouvelle robe. Nous partageâmes la monstrueuse pâtisserie sans rien en laisser dans le plat, et pour la première fois depuis que j'avais reçu ma blessure, je pris plaisir à ce que j'avalais.